Vous connaissez le slogan « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est l'apôtre Paul qui rapporte ce slogan en 1 Corinthiens 15, verset 32. C'était probablement un slogan de son époque. Hein. Et bon, il est peut-être de toutes les époques. Voilà. Et c'est surprenant parce que ce serait soi-disant chrétien à Corinthe qui soutenait que la résurrection des morts n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il disait ça. L'apôtre Paul disait donc à ce moment-là, mangeons et buvons. Hein. En fait, ces soi-disant chrétiens subissaient l'influence du monde dans lequel ils vivaient, et notamment la sagesse grecque avec ses philosophes et tout ça. Luc nous en donne un témoignage en acte 17. Paul est à Athènes et se joint à une discussion sur la place publique. Il annonce dans cette capitale du polythéisme et de la philosophie le Dieu unique, le seul vrai Dieu dont tous les humains sont les enfants. Et il exhorte ses auditeurs à se repentir de ces pratiques païennes qu'il qualifie de tant de l'ignorance. Parce que tous les hommes auront à rendre compte un jour au seul vrai Dieu. Ils seront jugés, dit Paul, par un homme choisi par Dieu, Jésus de Nazareth, fils de Dieu qui a pris chair sur cette terre et qui y est mort pour l'expiation des péchés de l'humanité, mais ressuscité par Dieu et désormais vivant et régnant pour l'éternité. Alors, Luc nous rapporte dans le livre des Actes que lorsque les gens, là sur l'aéropage, entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul. Et les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Un peu plus tard, Paul retourne à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et pour remettre à l'église de Jérusalem une collecte qu'il avait recueillie auprès des églises d'Asie et d'Europe. Les frères de Jérusalem lui donnent un bien mauvais conseil. Quelquefois, même de bien chers frères peuvent donner de mauvais conseils. Accomplir une cérémonie dans le temple, un vœu, avec quelques frères de l'église de Jérusalem, pour montrer à tout le monde que les bruits qui courent au sujet de Paul sont sans fondement. En effet, il était accusé par les Juifs d'Asie de prêcher l'abandon de la loi de Moïse et de toutes les pratiques qui y sont associées, ce qui pour les Juifs était un scandale. Alors qu'il accomplissait cette cérémonie dans le temple, les Juifs d'Asie provoquent une émeute parce qu'ils ont cru qu'il avait introduit des païens dans l'enceinte du temple, l'ayant vu en compagnie de Trophime, un grec, en ville. Ils voulaient le tuer. La profanation du temple était le seul motif pour lequel Rome autorisait les Juifs à se faire justice eux-mêmes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jésus a été crucifié par des Romains, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort autrement que pour la profanation du temple. Le commandant de la garnison romaine, de la forteresse Antonia, une forteresse qui domine le temple, voyant l'émeute, arrache Paul de justesse aux mains des mains des Juifs. Alors qu'il gravit les marches de la forteresse, Paul demande au commandant romain l'autorisation de s'adresser à la foule. Il le lui permet. Alors Paul décrit quel était son comportement vis-à-vis de la secte des chrétiens. Comment il les persécutait avant qu'il ne rencontre lui-même personnellement Jésus, alors qu'il se rendait à Damas pour faire arrêter encore d'autres chrétiens. Dire qu'il a rencontré personnellement Jésus, c'est dire implicitement que Jésus était ressuscité, puisque tout le monde savait qu'il avait été mis à mort à Jérusalem quelque temps plus tôt. Mais lorsqu'il mentionne que le Seigneur lui a dit qu'il l'envoyait au loin vers les non-juifs, la foule crie à mort ! Et du coup, le commandant veut le soumettre à la torture. Ce brave officier romain ne pouvait pas imaginer que cette foule veuille la mort d'un homme pour d'obscures raisons religieuses. Pour lui, il devait bien s'être rendu coupable de quelques crimes. Alors qu'on s'apprêtait à le soumettre à la question, il apprend que Paul est citoyen romain. Il allait donc faire une grosse bêtise. torturer un citoyen romain sans jugement légal. Voulant en savoir plus, il le fait comparaître le lendemain devant le Sanhédrin, l'assemblée légale juive, reconnue par les autorités romaines. C'est un feuilleton judiciaire que je vais vous raconter là. Hein. Moi, j'aime bien les feuilletons judiciaires. Donc là, premier épisode, Paul devant le Sanhédrin. Cette scène est décrite en acte 22, je la résume bien sûr. Paul, sachant que le grand conseil juif est composé de pharisiens et de sadducéens, commence par déclarer qu'il est lui-même pharisien, fils de pharisien. Luc nous précise que les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, et ils avaient raison, de même qu'aux anges et aux esprits, alors que les sadducéens, pourtant le parti influent qui avait autorité sur le temple, ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges, ni à rien en fait. C'étaient les rationnels sceptiques de l'époque. Alors Paul déclare, il lance ça dans le Sanhédrin, « Si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts. » Il dit « notre », parce qu'il est un juif parmi des juifs. Acte 23, verset 6. Cette parole provoque aussitôt une dispute entre pharisiens et sadducéens, à tel point que le commandant est à nouveau obligé de mettre Paul à l'abri. Le lendemain, les Juifs, certainement les Juifs d'Asie les plus remontés contre Paul, fomentent un complot pour le tuer. Ils s'engagent à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient réussi à le tuer. Paul a vendu complot par un de ses neveux qui vivait à Jérusalem et le fait savoir au commandant. Alors ce dernier envoie Paul sous bonne escorte, plutôt musclé, 200 légionnaires, 70 cavaliers, pour accompagner un prisonnier. Il faut croire que le commandant était vraiment inquiet. Hein. Donc il l'envoie à Césarée, une ville portuaire qui est au bord de la Méditerranée, où le gouverneur romain, Félix, avait sa résidence, accompagné d'une lettre expliquant pourquoi il a jugé bon de mettre de la distance entre Paul et ses accusateurs. Donc, deuxième acte, Paul à Césarée. Cela est raconté en acte 24. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananias se rend avec une délégation de responsables et un avocat auprès du gouverneur à Césarée pour porter plainte contre Paul. L'avocat, un certain Tertulle, passe un grand coup de pommade au gouverneur, le texte est désopilant de flatterie, hein, lisez ça, c'est marrant comme tout, et profère ensuite les plus graves accusations contre Paul, le décrivant comme une peste, comme un danger public, et insistant sur le fait qu'il a même tenté de profaner le temple. Alors Paul se défend en affirmant qu'il n'a en aucun cas tenté de profaner le temple et que d'ailleurs ses accusateurs sont dans l'incapacité d'apporter la moindre preuve de ce qu'ils avancent. Mais voici les paroles qu'il prononce au verset 14. « Certes, je le reconnais volontiers devant toi. Je sers le Dieu de mes ancêtres suivant la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu. Et cette espérance est aussi la leur, que les morts, justes et injustes, ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable tant devant Dieu que devant les hommes. » Et Paul fait allusion au verset 21, au seul grief que ses accusateurs pourraient avoir contre lui, celui d'avoir lancé en plein Sanhédrin cette parole, « Si je suis mis en accusation, c'est parce que je crois en la résurrection des morts. » Luc nous précise que Félix, le gouverneur, était tout à fait au courant de la « voie », entre guillemets, c'est-à-dire la secte des chrétiens. Il ajourne le procès et garde Paul à Césarée en résidence surveillée. Mais quelques jours plus tard, il fait appeler Paul, en présence de sa femme Drusille, pour en savoir un peu plus. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce couple. Drusille était en fait la troisième épouse d'Antonius Félix. Il avait réussi à l'enlever à son époux, le roi des Mèses, suite à une série d'intrigues scandaleuses. Donc, Antonius Félix, le gouverneur romain, et sa femme Drusille écoutent Paul leur parler de la foi en Jésus-Christ. C'est raconté en acte 24, verset 24. Le texte nous dit « Mais lorsque Paul en vint à ce qui est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur. Et lui dit « Pour aujourd'hui, ça suffit, tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » Et de plus, Luc nous précise au verset 26 « Il nourrissait l'espoir que Paul lui donnerait de l'argent. » C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. N'oublions pas que Paul avait été porteur d'une forte somme d'argent, la collecte qu'il avait collectée donc dans les églises d'Asie. Cette histoire nous rappelle celle d'un autre accusé, Jean-Baptiste. Hérode Antipas, qui avait épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère Philippe, il avait piqué la femme de son frère. Hérode avait fait emprisonner Jean-Baptiste à la demande d'Hérodiade, parce que ce dernier lui reprochait cette union illicite. Mais Hérode aimait bien s'entretenir avec Jean-Baptiste, un peu comme s'il était fasciné par la droiture de son prisonnier. Il finira néanmoins par le faire décapiter, à la demande d'Hérodiade, c'est raconté en Marc 6. Les deux auteurs inspirés, donc Luc et Marc, nous décrivent donc deux scènes qui ont une forte analogie. La droiture de l'homme de Dieu, Paul ou Jean-Baptiste, qui dit courageusement la vérité, contrastant avec la perversion de ceux qui ont pouvoir sur lui humainement. On arrive à acte 25. Deux années s'écoulèrent ainsi, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus. Mais pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. On dirait de nos jours, deux années de préventive. Trois jours après son arrivée à Césarée, Festus, le nouveau gouverneur, se rend à Jérusalem. Aussitôt, les chefs des prêtres et les notables juifs viennent le trouver pour le convaincre de transférer Paul à Jérusalem pour qu'il y soit jugé. En réalité, ils avaient toujours l'intention de le tuer pendant le trajet. Festus demande aux juifs de venir à Césarée pour faire connaître leur grief contre Paul. De nouveau, de graves accusations sont avancées contre l'apôtre. Festus, voulant se concilier la faveur des Juifs, lui aussi, demande à Paul s'il accepte d'être jugé à Jérusalem. Paul refuse, car il connaît très bien les intentions des Juifs. Il en appelle alors au jugement de l'empereur, qui à ce moment-là était Néron. Ce qui signifie qu'il devra comparaître à Rome pour être jugé. Quelque temps plus tard, le roi Agrippa et sa femme Bérénice viennent rendre visite au nouveau gouverneur qui vient de prendre son poste, Festus. Alors, quelques précisions sur ce couple-là aussi, Agrippa et Bérénice. Vous savez que Bérénice, c'était le sujet de pièces de théâtre écrites par Jean Racine, par Corneille, etc. Il s'agit de Hérode Agrippa II, qui régnait sur le nord d'Israël, la Galilée et la Pérée. L'empereur lui avait même accordé le droit de nommer le grand prêtre. Sa sœur, Bérénice, vivait en union incestueuse avec lui. Elle avait été mariée à un autre Hérode, roi de Chalcis. Quand celui-ci mourut, elle revint vivre avec son frère. Pour mettre fin au bruit courant à son sujet, elle épousa Polémon, roi de Cilicie, mais retourna peu après auprès de son frère. Plus tard, elle devint la maîtresse de Titus, le général romain, fils de l'empereur Vespasien, qui détruisit Jérusalem en 70, et devint ensuite lui-même empereur. Voilà, donc c'est ce couple-là devant lequel Paul va comparaître. Festus fait part au roi Agrippa de son embarras pour rédiger la lettre qu'il est censé écrire à l'empereur, lui expliquant pour quel motif il défère Paul au tribunal impérial. Agrippa se déclare intéressé d'entendre Paul. C'est alors que la parole prophétique de Jésus qui nous est rapportée en Matthieu 10 trouve son plein accomplissement pour Paul. Matthieu 10, 18 à 21, « On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-juifs. » Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. » Alors, c'est acte 26, Paul comparé devant le gouverneur Félix, le roi Agrippa et Bérénice. Voilà, c'est cette diapo, et certainement d'autres notables. Je vous propose la lecture de ce reportage extraordinaire qui est donné en Luc, par Luc en acte 26, versets 1 à 32, donc c'est tout le chapitre 26. « Agrippa dit à Paul, « Tu as la parole, tu peux présenter ta défense. » Alors Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi. Car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu dès ma jeunesse au sein de mon peuple à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation par des Juifs, au roi. Et maintenant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts ? Il me disait ça dans un tribunal. Hein ? Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, je me suis rendu à Damas, qui était la capitale de la Syrie comme de nos jours, avec les pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres pour accomplir cette mission. J'étais en chemin. Il était environ midi lorsque j'ai vu, au roi, une lumière venant du ciel plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, ils étaient à cheval probablement. Et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer de vie et se convertir à Dieu pour vivre d'une manière qui réponde à ce changement intervenu en eux. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour. Et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humbles conditions comme aux personnages importants. Et là, vous aviez des personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Paul en était là de sa défense quand Festus, donc le gouverneur, s'écria « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait perdre la tête !» Paul répond « Non, excellence, répondit Paul, je ne suis pas fou. Tout ce que je dis est vrai et sensé. D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces faits Et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?» Il interpelle le roi. « Oui, je le sais, tu y crois. » Il donne même la réponse. Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu, et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » « Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, reprit Paul, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent en cet instant, vous deveniez comme je suis moi-même, à l'exception de ses chefs, de ses chaînes quand même. » Là-dessus, le roi se leva et le gouverneur et Bérénice, ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux, l'imitèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. » Et en fait, bien sûr, tout cela n'était que ce que Dieu avait prévu. Il voulait que Paul comparaisse à Rome pour continuer son témoignage à Rome. Tout ça servait le plan de Dieu, y compris ces païens qui ne comprennent pas grand-chose à l'histoire, hein, mais qui insistent à tout ça. Donc Paul a une nouvelle fois raconté sa conversion sur le chemin de Damas, affirmant avoir été interpellé, et de quelle manière ? Par le Seigneur lui-même, donc ressuscité. Il a réaffirmé la mission qu'il a reçue du Seigneur lui-même, d'annoncer à tous, juifs et non-juifs, la nécessité impérieuse de changer, de se convertir à Dieu et de traduire ce changement par des actes. On peut imaginer le malaise du roi Agrippa et de Bérénice devant des paroles comme ça. Des paroles qui font appel à la droiture morale. Vous avez noté aussi l'embarras du gouverneur romain, qui est bien rendu sur le tableau que je vous ai projeté, mais qu'on ne voit pas bien, mais tant pis, qui espérait trouver un motif clair d'accusation pour écrire une lettre à l'empereur. Et là, il devait être bien perplexe, je pense, à la suite de cette comparution. C'est pour ça qu'il a interrompu Paul. « Tu es fou, ton grand savoir te fait perdre la tête. » En fait, il n'a probablement pas compris grand-chose au discours de Paul, mais pourtant, il a clairement entendu l'Évangile. C'était un résumé, mais il y avait l'Évangile dans le discours de Paul. Rappelez-vous ce qu'il a dit. « Ce que j'ai déclaré, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Messie souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux non-juifs, donc aux Romains aussi, comme le gouverneur. » La lumière du salut. Contrastant avec les ténèbres morales du roi Agrippa et de la reine Bérénice. Alors tous se retirent. La proclamation de l'Évangile aurait pu produire chez eux la prise de conscience de leurs péchés et les sauver s'ils avaient mis leur confiance en Jésus-Christ, crucifié pour leurs fautes, mais ressuscité. Mais l'incrédulité est là, avec l'attrait irrésistible du pouvoir et des perversions humaines. Quel contraste avec l'espérance chrétienne. Oui, nous sommes pleins d'espérance parce que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance du Père. Sa résurrection était la preuve que la justice de Dieu était pleinement satisfaite. Mais cette résurrection est aussi l'assurance absolument sûre de la nôtre parce que nous avons placé notre confiance en lui. Notre vie est liée dès maintenant et pour l'éternité à la sienne. Peut-on imaginer une meilleure espérance ? Et vous avez vu que cette espérance s'accompagnait chez Paul d'un engagement sans faille à vivre une vie digne de cette espérance et de celui qu'il avait mise dans son cœur. Alors mes chers amis, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, ayons nous aussi une pleine assurance dans cette espérance de la résurrection de nos corps et vivons notre vie terrestre comme Paul, à l'image de celui à qui nous la devons.